Voici une longue note jointe au texte à l'endroit où les commandants discutent entre eux de l'importance des guets de Lysène. La première partie reprend des faits d'histoire donnés ailleurs dans le présent ouvrage, mais j'ai jugé utile de citer la note en entier. Durant les jours anciens, les frontières méridionales et orientales du royaume du Nord étaient fixées par le cours du Griffleur, tandis que Lysène constituait les frontières occidentales du royaume du Sud. Peu de Nouménoréens s'étaient jamais aventurés sur les terres qui les séparaient, les Nedweth ou peuples de l'entre-deux, et aucun ne s'y était établi. Du temps des rois, ces contrées faisaient partie intégrante du royaume du Gondor, mais les Gondoriens n'y attachaient guère d'importance, sinon pour la surveillance et l'entretien de la grande route royale. Cette route parcourait toutes les terres depuis Osgiliath et Minas Tirith jusqu'à Fornost, dans le nord lointain, en franchissant les guets de Lysène et en traversant les Nedweth. Au centre et au nord-est, la voie suivait les hauteurs jusqu'à ce qu'elle soit amenée à plonger à l'ouest, en aval du Griffleur, qu'elle franchissait sur une chaussée surélevée menant au grand pont de Tharbad. À cette époque, la région était peu peuplée. Dans les marais aux embouchures du Griffleur et de l'Isène vivaient quelques tribus d'hommes sauvages, pêcheurs et oiseleurs, proches parents par le sang et le parler des Druedaines qui habitaient les bois de la Norienne. Sur les contreforts des versants occidentaux des montagnes de brume se terraient les vestiges de ce peuple que les Rohirrim devaient appeler plus tard les Dunlandais, gens renfrognés apparentés aux anciennes populations qui avaient vécu dans les vallées des montagnes blanches et encouru la malédiction d'Isildur. Ces Dunlandais ne portaient guère le Gondor dans leur cœur, mais tout téméraire et endurant qu'ils fussent, ils étaient bien trop peu nombreux et craignaient trop la puissance des rois pour les inquiéter, ou pour les faire tourner les yeux de l'Est, d'où provenaient des dangers plus graves et menaçants. Comme tous les peuples de l'Arnor et du Gondor, les Dunlandais souffrirent au Troisième Âge, dans les années 1636-1637, de la Grande Peste. Mais moins que d'autres, car ils vivaient isolés et ne frayaient guère avec les autres hommes. Lorsque le temps des rois prit fin, 1975-2050, et que s'amorça le déclin du Gondor, ils cessèrent, en réalité, d'être sujets du Gondor. La route royale ne fut plus entretenue à travers les Nedweth, et le pont de Tharbad menaça en ruine, ne fut remplacé que par un guet périlleux. Les frontières du Gondor étaient alors constituées par l'Isène et par la brèche du Calenardon, comme on l'appelait alors. La brèche était surveillée par les forts d'Aglarond, la Ferté-au-Cor, et d'Angrenost, Isengard. Et les guets de l'Isène, seul accès facile au Gondor, étaient toujours étroitement gardés contre toute incursion en provenance des terres sauvages. Mais durant la paix vigilante, de 2063 à 2460, la population du Calenardon s'amenuisa. Année après année, les plus vigoureux s'enfuirent vers l'est, tenir la ligne de défense sur l'Anduin. Ceux qui restèrent se firent plus rustres, et à Minas Tirith, on ne se souciait plus guère d'eux. On ne renouvela pas les garnisons des forts, et la garde en fut abandonnée aux chefs locaux, dont le pouvoir était héréditaire, et les sujets, des hommes de sang de plus en plus mêlés. Car les Dunlandais s'infiltraient régulièrement de l'autre côté de l'Isène et sans rencontrer la moindre opposition. Telle était la situation lorsque reprirent les attaques contre le Gondor en provenance de l'Est et que les orques et les orientais envahirent le Calenardon et assiégèrent les forts qui n'auraient pas tenu très longtemps. Et vinrent alors les Rohirrim. Et après la victoire d'Eorl au champ de la Celebrant en l'année 2510, son peuple nombreux et belliqueux, riche en chevaux, déferla sur le Calenardon, chassant devant lui ou détruisant tous les envahisseurs venus de l'Est. Kirion l'intendant leur donna en pleine propriété la province du Calenardon, laquelle fut désormais appelée Ridermark, ou au Gondor, Rokand, et par la suite Rohan. Les Rohirrim entreprirent immédiatement de coloniser la région, bien que durant le règne d'Eorl, leurs frontières orientales le long des Éminmuil et de l'Anduin demeurassent menacées. Mais sous Brego et sous Haldor, les Dunlandais furent à nouveau débusqués et chassés au loin, au-delà de l'Isène, et on replaça les guets sous surveillance. ce qui valut au roi Hyrim la haine des Dunlandais, laquelle dura jusqu'au retour du roi bien des années après. Et les Dunlandais ne manquaient pas de renouveler leurs attaques dès qu'ils sentaient faiblir les rois Hyrim ou les voyaient en proie à des difficultés. Jamais alliance entre deux peuples ne fut maintenue plus fidèlement de part et d'autre que celle qui lia le Gondor et le Rohan sur la foi du serment de Kirion et d'Eorl. Et jamais peuple ne se trouva mieux adapté à la garde des vastes plaines herbeuses du Rohan que ne le furent les cavaliers de la Marche. Toutefois, leur situation comportait un point faible, ainsi qu'il apparut clairement lors de la guerre de l'Anneau, lorsque cette faiblesse fut sur le point de causer la ruine et du Rohan et du Gondor. Et cela reposait sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Gondor, ayant toujours gardé ses yeux sur l'Est, d'où plusieurs dangers accouraient, l'hostilité des sauvages dunlandais paraissait sans conséquence aux intendants. Par ailleurs, les intendants maintinrent leur autorité sur la tour d'Orthanc et sur l'anneau d'Isengard, Anglenost. Les clés d'Orthanc furent emportées à Minas Tirith et on ferma la tour, et la garde de l'anneau d'Isengard fut confiée à un chef gondorien dont le titre était héréditaire et à son petit peuple, auquel on adjoignit une garnison dont les origines remontaient aux anciens gardes d'Aglarond. On fit réparer la forteresse qui s'y élevait par des maçons du Gondor, et une fois en état, on la remit aux mains des Rohirrim. Ce sont eux qui devaient assurer la bonne garde des guets. Les demeures des Rohirrim étaient pour la plupart éparpillées au pied des montagnes blanches et dans les ravines et vallées plus au sud. Ils ne se rendaient que très rarement sur les confins septentrionaux du Westfold et seulement en cas de besoin, considérant avec un certain effroi l'orée de Fangorn, le bois d'Ent et les sinistres murailles d'Isengard. De fait, ils ne fréquentaient guère le seigneur d'Isengard et son peuple discret qu'ils soupçonnaient de pratiquer la magie noire. Et les émissaires de Minas Tirith venaient de plus en plus rarement à Isengard et un jour ils ne vinrent plus. Il semble que, submergés de soucis, les intendants aient oublié la tour, bien qu'ils en aient détenu les clés. Pourtant, Isengard contrôlait toute la frontière occidentale et la ligne de défense de l'Isen, et les rois du Gondor en avaient toujours été conscients. L'Isen, à peu de distance de sa source, venait baigner les murailles est de l'anneau d'Isengard, et chassant son cours vers le sud, ce n'était encore qu'une toute jeune rivière qui n'offrait guère d'obstacles sérieux aux envahisseurs, bien que son courant fût très rapide et ses eaux étrangement froides. Mais la grande porte d'Anglenost s'ouvrait à l'ouest de l'Isen, et si la garnison était forte, l'ennemi accouru de l'ouest devait venir en nombre pour songer à envahir le Westfold. De plus, Anglenost était plus proche des guets, à une distance moitié moindre que ne l'était Aglarond. Et y menait directement une vaste route cavalière qui, depuis les portes mêmes de la forteresse, filait jusqu'au guet en terrain presque entièrement plat. L'épouvante qui hantait la grande tour et l'effroi qu'inspiraient les ténèbres de Fangorn, juste derrière, pouvaient sans doute la protéger un temps. Mais cette protection se révélerait vaine si on négligeait l'état de la forteresse et cessait d'y poster une garnison, comme ce fut le cas durant les derniers temps des intendants. Et cela devait s'avérer. Sous le règne du roi Déor, 2699 à 2718, les Rohirrim comprirent que monter la garde aux abords des guets ne suffisait plus. Mais comme ni le Rohan ni le Gondor ne se soucia plus de ces lointaines marches du royaume, on ne devait apprendre que beaucoup plus tard ce qu'il advint. La lignée des chefs gondoriens d'Angrenost s'était éteinte, et le commandement de la forteresse était passé aux mains d'une famille du commun. Des gens, on l'a vu, de sang mêlé, et ce depuis fort longtemps déjà, et qui se trouvaient à l'époque mieux disposés envers les Dunlandais qu'envers les sauvages hommes du Nord qui s'étaient appropriés les terres. Ils ne se souciaient guère de la lointaine Minas Tirith. Après la mort du roi Haldor, qui avait chassé les derniers des Dunlandais et avait même assailli leur domaine dans les Nedweth, à titre de représailles, les Dunlandais, à l'insu du Rohan, mais avec la connivence d'Isengard, commencèrent à s'infiltrer de nouveau au nord du Westfold, s'établissant dans les vallées à l'ouest et à l'est d'Isengard, et même à l'orée de Fangorn. Sous le règne de Déor, ils devinrent franchement hostiles, raflant les troupeaux de chevaux et les élevages des Rohirrim du Westfold. Bientôt, les Rohirrim se rendirent compte que ces maraudeurs n'avaient pas franchi l'Isen à la hauteur des guets, ni en aucun point au sud d'Isengar, puisque les guets étaient sous surveillance. C'est pourquoi Deor entreprit une expédition vers le nord et, tombant sur une armée de Dunlandais, les vaincut. Toutefois, il fut consterné en découvrant qu'Isengar aussi lui était hostile. Pensant avoir soulagé Isengar de la menace d'un siège dunlandais, il envoya des héros aux portes avec des messages de bonnes intentions, mais pour seule réponse, on leur ferma les portes au nez et on les flécha. Comme on devait l'apprendre plus tard, les Dunlandais admis dans la citadelle à titre d'amis s'étaient emparés de l'anneau d'Isengar, tuant les quelques survivants de l'ancienne garnison qui répugnaient, comme la plupart d'entre eux, à se mêler aux Dunlandais. Deor envoya immédiatement un message à l'intendant à Minas Tirith. Et en cette année 2710, il se nommait Egalmoth. Mais celui-ci n'était pas en mesure d'envoyer de l'aide, et les Dunlandais demeurèrent en possession d'Isengar, jusqu'à ce que, décimés par la grande famine du long hiver, 2758-2759, la faim les poussa à sortir, et ils capitulèrent, rendant la citadelle aux mains de Fréalaf, plus tard premier roi de la seconde lignée. Mais Deor n'avait pas le pouvoir d'attaquer ou d'assiéger Isengar, et durant plusieurs années, les Rohirrim durent maintenir un contingent important de cavaliers au nord du Westfold. Et il en fut ainsi jusqu'aux grandes invasions de 2758. On comprendra aisément que lorsque Saruman offrit de prendre le commandement d'Isengar, d'y faire les réparations nécessaires et de mettre bon ordre afin que la forteresse retrouve son rôle dans la défense de l'Ouest, la chose lui fut volontiers accordée, et par le roi Fréalaf, et par Beren l'intendant. Et lorsque Saruman se fut installé à Isengar, et que Beren lui remit les clés d'Orthanc, les Rohirrim revinrent à leur tactique de surveillance des guets, point le plus vulnérable de leurs frontières occidentales. Nul doute, semble-t-il, que Saruman était sincère lorsqu'il fit son offre, ou qu'il était du moins sincèrement en faveur de la défense de l'Ouest, à condition qu'il demeurât, lui, à la tête de l'action défensive et du conseil. Il était sage et percevait clairement l'importance d'Isengar, à la fois pour son emplacement et pour sa capacité de résistance qui était tout autant œuvre de la nature que de la main. Car le cours de l'Isen, entre la tenaille que formait Isengar et la Ferté-au-Corps, faisait rempart contre toute invasion venue de l'Est, qu'elle fût ou non suscitée ou guidée par Sauron, visant à encercler le Gondor ou à envahir l'Eriador. Mais au bout du compte, Saruman devait se tourner vers le mal et devenir un ennemi. Et bien qu'averti que ses mauvaises intentions à leur égard allaient croissantes, les Rohirrim persistèrent à poster l'essentiel de leurs forces à l'ouest des guets, jusqu'à ce que Saruman leur eût démontré, par une guerre ouverte, que les guets étaient une piètre protection sans la forteresse d'Isengar, et moins encore contre elle.